7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, en particulier de ceux qui n'étudient plus, les parents d'élèves. Enfin, qui n'étudient plus, c'est vite dit, parce que quand ils font les devoirs avec les enfants, c'est aussi du boulot. Mais en tout cas, les parents d'élèves sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce qui se passe dans l'école de leurs enfants. Comment ils apprennent, quelles sont les méthodes des enseignants, comment est gérée la récréation, comment est gérée la cantine, est-ce que le directeur est sérieux? Et parfois, ils n'hésitent pas à se plaindre lorsque leurs enfants sont punis ou ont de mauvaises notes. Mais je vous dis que mon fils a bien révisé son contrôle. Et quand il s'agit d'école privée, eh bien, il y a de la relation client dans l'air. Mais pourquoi donc on paye si cher? Et puis, il y a aussi ces parents que l'école ne voit jamais, invisibles aux réunions, en difficulté pour acheter du matériel scolaire. Alors, les parents d'élèves sont-ils des alliés ou des ennemis de l'école? Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, souhaiterait les privés d'allocations familiales lorsque leurs enfants sont violents, ce qui a d'ailleurs déclenché une polémique politique, mais ça pose la question de la responsabilité aussi des familles. Nous allons discuter de tout cela avec un principal de collège public. Bonjour monsieur Radouane Mamdi.
Bonjour madame.
Vous êtes donc principal d'un collège public en Seine-Saint-Denis qui est placé en réseau d'éducation prioritaire. Vous gérez donc près de 700 élèves. C'est pas loin d'un travail de chef d'entreprise.
Exactement, avec les parents, nous sommes à peu près à 2000 personnes, avec les enseignants, la vie scolaire, donc nous sommes à 2000. Et donc c'est une gestion RH très importante qui demande beaucoup de temps. Et la relation avec les parents présente pour nous un facteur important. Et nous incitons et nous travaillons aussi pour avoir des relations intéressantes, privilégiées avec les familles.
2000 parents d'élèves à gérer. Ben, ça ne doit pas être de tout repos tout de même. Hein. Béatrice Sabaté également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Psychologue, vous dispensez des formations en discipline positive, notamment auprès d'enseignants dans des établissements scolaires. Et vous êtes membre fondateur de l'association Discipline Positive France. Et quant à vous, les voisins, appelez-nous pour nous raconter quelles sont vos relations avec l'école de vos enfants. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le téléphone WhatsApp, donc c'est gratuit. Vous pouvez envoyer des messages écrits, mais ne postez plus de messages audio, parce que ça y est, on vient de démarrer, c'est le direct, alors appelez-nous directement au téléphone. Une voisine à Libreville au Gabon nous postait le message suivant tout à l'heure. Les cours de français de ma fille sont déplorables, mais comme je ne veux pas de conflit avec l'établissement scolaire de ma fille, ben je refais des cours à la maison. Bon, bah, c'est une façon de voir. En dernière partie d'émission, on parlera des bourses Erasmus+ pour les étudiants africains. Les budgets de l'Union européenne sont en augmentation pour le continent et vous saurez tout pour candidater. Et enfin, Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, nous dira dans sa chronique hebdomadaire « Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, comment bien nourrir son bébé ?»
7 milliards de voisins.
On est enfants.
C'est l'attitude qui gagne.
Mais tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de cette maman. Marie a deux enfants de 1 à 5 ans et depuis 3 ans, elle est élue à l'association des parents d'élèves dans l'école maternelle publique de son fils.
J'ai décidé de devenir parent d'élève élu dès que mon fils est rentré à l'école maternelle en petite section. C'est une tradition familiale. Ma mère était parent d'élève, mon père aussi, voilà. Donc du coup, je les ai vus à l'œuvre quand j'étais petite. Pour moi, c'était naturel de le faire. Et puis en même temps, bah, on a un pied dans l'école et on peut voir ce qui s'y passe, quoi. Je ne voulais pas laisser mes enfants dans la nature, comme je sais qu'en ce moment, l'école, c'est un peu tout et n'importe quoi dans les écoles. Des violences, il y a un manque de discipline, de surveillance, un lâcher-prise total des enseignants. Ce qu'on entend en fait à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, des éléments perturbateurs, le corps enseignant qui ne sait pas gérer, voilà. Forcément, on se dit que c'était mieux avant, toujours. Mais bon, voilà, c'est juste cette appréhension-là. Disons que la confiance n'était pas pleine et entière.
Vous êtes une maman d'élèves inquiète?
Je l'étais, mais depuis que j'y suis, non. Puisque je sais comment ça fonctionne. Ça rassure parce qu'on a un pied dans l'école. On sait ce qui s'y passe. Et puis surtout, quand il y a des soucis, on a nos enfants qui nous disent « un tel est tombé, s'est fait mal dans la cour, il y a eu une bagarre ». Du coup, bah, tout de suite, on remonte l'information, on va chercher l'information et on a des réponses. Alors, se dire que ça va pouvoir permettre de garder le contrôle, c'est un joli leurre, parce qu'on ne contrôle rien. On participe activement. C'est différent. Alors, le rôle d'un parent d'élève élu, c'est l'allié de l'école. On est là pour aider. Je vais donner un exemple. Dans l'école dans laquelle je suis, l'an dernier, l'éducation nationale a décidé de fermer une classe. Ça aurait revenu à avoir 34 élèves par classe. Et donc, via nos courriers, notre présence sur le terrain, à savoir au rectorat, avec l'inspectrice d'académie, et en faisant le pied de grue, enfin, on a vraiment soutenu toute l'équipe enseignante, on a réussi à rouvrir la classe, ce qui est quand même chose rarissime, puisque les parents d'élèves élus sont reconnus par le corps académique. Et donc, du coup, ben, on a plus de poids que si la directrice toute seule appelait pour dire au secours, on a un problème.
En tant que parent, votre point d'influence, il se situe sur uniquement le matériel, l'organisation, ou est-ce que vous avez aussi votre part dans la pédagogie et le relationnel des enseignants avec les élèves ?
Dans la salle de classe, la pédagogie, c'est pas notre métier. Tout ce qui se passe dans une classe, heureusement ou malheureusement, de toute façon, on n'y a pas accès. Heureusement, parce que en même temps, si on avait accès à tout, ce serait un peu néfaste pour tout le monde, pour nous, pour nos enfants, pour le corps enseignant. Malheureusement, parce qu'on est toujours très curieux de savoir ce qui s'y passe.
Vous vous êtes impliqué au départ pour vos enfants ou pour la collectivité des enfants de l'école ?
Forcément, quand on est maman, c'est pour soi. Donc, si on a un enfant, c'est un peu égoïste. Or, notre enfant, il ne vit pas tout seul, il vit dans une collectivité. Et le mieux cette collectivité est, le mieux notre enfant est. Donc, je l'ai fait pour mon enfant et forcément pour la collectivité.
Pour vous, c'était important de vous impliquer dès la maternelle ?
Dès la maternelle, il se joue des choses importantes. On le met dans la collectivité, donc c'est là qu'il apprend les règles de vie sociale, écouter en classe, lever la main pour prendre la parole. Enfin, toutes les règles se posent entre 3 et 6 ans.
Mais du coup, vous allez vous impliquer toute votre vie alors ? Enfin, en tout cas, toute la vie scolaire de vos enfants ?
Je m'impliquerai toute la vie scolaire de mes enfants, tout à fait.
Témoignage recueilli par Alice Milo, Béatrice Sabaté, Radouane Mamdi. Que vous inspire ce témoignage de relation assez ambiguë quand même en tant que parent d'élève, Béatrice Sabaté ?
Oui, je trouve qu'à l'écouter, c'est le parent d'élève aujourd'hui, il intervient dans plein de domaines. Et donc je trouve que c'est difficile de trouver la juste distance pour que chacun ait son rôle, chacun ses responsabilités. Donc c'est une première chose. Et puis j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit sur le fait qu'un enfant apprend mieux quand il se sent mieux. Quel rôle chacun va avoir pour que justement ça puisse avoir des effets.
Radouane Mamdi, vous avez apprécié le « Mon enfant est lâché dans la nature et je veux savoir ce qui se passe
». Ben, j'allais commencer
par dire...
Vous
êtes la nature, donc vous êtes la forêt en tant que directeur de collège.
J'allais commencer par dire que du bonheur. Je trouve que la maman a répondu à tout. C'est-à-dire que quand elle n'était pas impliquée dans l'école, c'était tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, elle est impliquée, elle est partenaire et elle se rend compte que ce n'est pas du tout tout et n'importe quoi à l'école et que les choses se font selon des protocoles. Je pense, et je rejoins ma collègue, il faut qu'il y ait un cadre écrit, un cadre éthique, un cadre de coopération, de coéducation. Et que pour que ça puisse marcher, il faut que tout le monde respecte son domaine de compétences, qu'on n'aille pas dans tous les sens. Et de là, la maman a dit l'essentiel, c'est je ne veux pas entrer dans la pédagogie parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Par contre, le suivi de la scolarité de mon enfant, c'est mon domaine de compétence. Et nous, les chefs d'établissement, la communauté éducative, on doit travailler ensemble pour qu'on soit dans le même objectif et que chacun reste dans son domaine de compétence.
Il y a une enquête qui avait montré en 2015 que quand on interroge les parents d'élèves sur le rôle des délégués de parents d'élèves, ceux qui sont donc nécessairement très impliqués, qui sont élus dans les associations, la majorité des parents estiment que les délégués ne s'occupent que de leurs propres enfants. Bonjour l'ambiance quand même.
C'est vrai, on a l'impression que les délégués ne s'occupent que de leurs enfants, mais ce n'est pas vrai. Les délégués sont des alliés. Ça a été dit aussi, moi personnellement, quand j'ai une difficulté avec un parent pour le rencontrer, je sollicite les délégués qui soient présents parce qu'à la fois ils sont objectifs et en même temps, ils connaissent mes contraintes et mes difficultés et ils connaissent aussi les besoins des parents et souvent c'est un lien. Donc aussi être délégué, c'est ouvert à tous les parents. Donc ceux qui estiment que les autres défendent que leurs enfants, mais ils n'ont qu'à venir et être délégués parce que le nombre de délégués n'est pas limité.
Mais globalement, les relations parents-prof n'ont quand même cessé de se dégrader, comme l'a montré un rapport publié à l'automne. Dans presque 8 cas sur 10, l'auteur d'injures à l'égard d'un directeur ou d'un enseignant dans 8 cas sur 10, c'est un parent. Radouane Mamdi, vous, comment ont évolué les parents d'élèves? Comment vous les percevez? Comment ils ont évolué par rapport à leur rôle, par rapport au collège de leurs enfants, vous, en tant que principale de collège, dans une zone d'éducation prioritaire où il y a de grandes difficultés sociales en plus?
Oui, exactement. Mais les besoins sont les mêmes, que ce soit en zone d'éducation prioritaire ou ailleurs. Les besoins sont que mon enfant soit en sécurité, premièrement, et que mon enfant soit en réussite. Maintenant, il ne faut pas le cacher, il y a des parents, pour des raisons diverses et variées, quand ils viennent vous voir en temps réel, ils sont contrariés. Et donc aussi, il y a la formation des enseignants, la formation des chefs d'établissement, comment gérer des parents contrariés. Je ne pense pas, sincèrement, et les chiffres le montrent, je ne pense pas que la relation parent-professeur se dégrade, et je trouve que la parent-enseignant s'améliore. Pourquoi elle s'améliore? Parce que l'école, elle s'ouvre maintenant. L'école, elle est consciente du rôle important que doivent avoir les parents. L'institution met en place des moyens. Dans les rectorats, vous avez un service qui est dédié aux parents. Les départements, quand ils construisent un établissement ou rénovent un établissement, mettent en place un espace pour les parents. Donc pour moi, aujourd'hui, la relation parent-enseignant est une relation qui s'améliore et qui va vers le positif. Ceci dit, il ne faut pas le cacher. Parfois, nous avons affaire à des parents très très difficiles. Heureusement,
qui vous accapare de plus en plus, non, dans votre journée de travail qui est déjà lourde.
Qui, malheureusement, mais ce n'est pas une généralité, mais qui... d'une manière directe ou indirecte, nous responsabilise sur un échec. Et ils pensent que l'échec, c'est dû à l'école.
Les principales causes de conflit, c'est quoi, là?
La principale aujourd'hui, c'est des problèmes de violence. C'est la crainte de problèmes de violence, ce que disait la maman avant. Et puis, l'absence de réussite. S'il y a un problème d'échec, c'est directement, c'est à cause de l'école. Mais sur ce point-là, on progresse peut-être que...
Oui. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un conseil de discipline, hein, et j'ai vu cette maman arriver. Alors c'était une situation de violence, en fait des explosions de violence chez ce jeune en quatrième, et elle est arrivée armée, en fait elle est arrivée défensive, armée dans le sens sur la défensive, avec la peur que son enfant soit étiqueté, et c'était très intéressant parce qu'en fait on a commencé cette réunion en partant des ressources de l'enfant, en fait de ses forces, et je trouve que c'est important aujourd'hui de faire alliance avec les parents. Et qu'on en parle beaucoup, on a pris conscience que c'était un partenaire important, et en même temps, les rôles ne sont pas toujours définis, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que ça va être important que chacun sache.
Néanmoins, les parents sont, comme l'ensemble du pays, comme l'ensemble des sociétés, on a quand même l'impression aujourd'hui qu'il suffit d'une allumette pour que tout s'embrase assez vite, non? Les parents s'énervent assez rapidement.
Oui, mais ils s'énervent parce qu'il y a, j'allais dire, aussi ça c'est de la gestion, ils s'énervent vite parce qu'il y a peut-être une accumulation de choses qu'on n'a pas détecté, et puis le jour J ou l'heure H, pop, ça déclenche. Donc, pour éviter ça, et c'est ce travail en amont, je disais d'écrire des protocoles, un établissement lambda peut écrire et construire, les parents écrivent avec les enseignants, des protocoles de travail, un cadre éthique de travail, pour éviter ce genre d'incident. Mais, ceci dit, les incidents arrivent dans les milieux difficiles. Vous pouvez, pour des problèmes d'ordre social, ça arrive et ça explose un jour. Oui. C'est déjà arrivé.
Vous évitez de prendre les problèmes à chaud, un parent d'élève qui vous appelle est très énervé?
Toujours. Toujours, il faut éviter de prendre les parents à chaud, il faut apaiser, il faut ne pas oublier un chef d'établissement ou un enseignant, il n'est pas seul dans un établissement. Il y a l'assistante sociale, il y a des infirmières, il y a des psychologues. Et donc,
appelez les parents d'élèves, hein, ou d'ailleurs si vous êtes chef d'établissement, directeur d'école également, puisqu'on parle de cette relation parents d'élèves-école, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
On dit quoi? On dit qu'il faut passer beaucoup de temps à parler avec les parents d'élèves. Hilaire, un directeur d'école à Conakry, nous appelle. Bonjour Hilaire.
Oui, bonjour madame.
Hilaire, vous êtes directeur d'une école privée qui fait à la fois du jardin d'enfants et puis de l'école élémentaire, hein, c'est bien cela, à Conakry, en Guinée?
Oui, c'est ça. Oui, à Conakry, en Guinée, à la Minière.
Alors, donc, ça veut dire que vous avez des parents qui sont aussi des consommateurs, hein. Ils payent pour mettre leur enfant à l'école privée. Est-ce que ça change les relations par rapport à l'école publique, d'ailleurs?
Oui, à ce niveau-là, puisque il y a un investissement qui est là, il y a de l'argent qui sort, donc il faut prendre beaucoup de précautions.
Et qu'est-ce que ça change du coup dans vos relations avec les parents d'élèves?
Bon, et les écoles privées, quelquefois, ce sont les parents qui contribuent. Donc à ce niveau-là, les parents de temps en temps essaient d'avoir un esprit dominateur sur l'école. Mmh.
Qui se manifeste donc, comment? Ils réclament de meilleures notes? Ça peut aller jusqu'où?
Bon, voilà, quelquefois, ils réclament surtout le relationnel, c'est-à-dire qu'ils veulent que les enfants soient traités comme ils sont traités à la maison. Ils veulent que les enfants soient, c'est-à-dire les enfants dictent leur déshydratation sur le système de l'école. Mm-hmm. Les parents aussi, comme ils contribuent, ils veulent avoir, c'est-à-dire, ils décident, ils veulent décider de ce qui doit se passer à l'école. Mais puisque c'est eux qui financent, voilà.
Et ça ne vous étonne pas, Hilaire, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez grandi, vous êtes un adulte, vous êtes directeur d'école, et vous avez grandi à une époque où le parent mettait son enfant à l'école en disant à l'enseignant, faites-en ce que vous voulez.
Bon, de nos jours, ça ne nous étonne pas que l'enfant essaie d'influencer le système qui est à l'école, parce que, bon, quand nous étions à l'école autrefois, c'était l'école publique, mais l'école privée aujourd'hui a un autre aspect, un autre caractère, parce que c'est le parent lui-même qui donne son argent. Donc par conséquent, il veut avoir un œil sur l'école, il veut influencer l'école. Bon, nous, ça ne nous étonne pas, mais c'est pourquoi on essaie de prendre aussi des précautions à la base.
Alors comment faites-vous justement pour exercer malgré tout votre métier en toute liberté et en bon professionnel que vous êtes? C'est tout de même vous qui connaissez votre métier.
Oui, effectivement, parce que là, c'est en cela qu'il faut créer une bonne relation école-famille. Dans un premier temps, il faut mettre le parent face à ses responsabilités et lui faire comprendre que si aujourd'hui il est un individu dans la société, c'est à partir de l'école et que l'école a forgé son image, son avenir, son destin. Donc, par conséquent, s'il essaie d'influencer l'école, est-ce que l'école sera en mesure de satisfaire son enfant? Donc, en ce moment, ces séries d'interrogations-là vont interpeller plutôt le parent pour dire, mais il faut que je laisse l'école et travailler, voilà, je crois bien.
Et faire confiance à l'école, c'est
voilà,
ça.
Faire confiance à l'école, voilà.
Merci Hilaire de nous avoir appelé. Alors tout de même, cette confiance aujourd'hui est entachée d'une certaine défiance de la part des parents d'élèves qui sont de mieux en mieux informés aussi sur ce qui se passe, hein, sur les mots MAUX de l'école, sur les interrogations largement relayées par les médias. Il faut bien le dire, Béatrice Sabaté.
Oui, ils sont en fait, c'est un peu revisiter leur rôle finalement. Et je trouve que quand on parle de confiance et restaurer la confiance, ça passe par poser les choses. Et quand j'arrive dans un établissement en tant que parent d'élève, c'est de savoir quel est mon rôle, quelles vont être mes responsabilités et qu'il puisse y avoir un vrai dialogue, hein, pas seulement dans les textes. Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est que finalement, parents délégués, on en parlait tout à l'heure, je connais des établissements qui imposent qui va être parent d'élève et quel est le rôle du parent d'élève. Et pour moi, ça, ce n'est pas construire ensemble. Et forcément, la relation de confiance, elle est chahutée dans ces cas-là.
Chez vous, les parents délégués, ils sont vraiment élus? C'est un vrai vote démocratique?
Ah oui, ça, c'est le travail des parents. Non, mais les parents ont leur mot à dire à l'école. Mmh. Hein. Ils sont membres du conseil d'administration. Ouais. Ils votent. Ils votent le budget, ils votent la répartition de la dotation, les moyens. Ils votent. Donc, ils ont leur mot à dire dans l'établissement. Ce n'est pas de simples spectateurs, ils ont un nom.
On parlait des parents consuméristes, hein, qui sont clients de l'école parce qu'ils payent. C'était le cas pour cet auditeur qui nous appelait de cette école privée à Conakry. Évidemment, pour vous, Radouane Mamdi, vous êtes principal d'un collège public dans une zone d'éducation prioritaire où tous les parents ne sont pas des contribuables. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, de par vos collègues aussi, qu'il y a cette tentation du parent de dire, mais après tout, l'éducation nationale, l'école est financée par mes impôts et j'ai un droit de regard, y compris sur la qualité d'exercice du métier des enseignants.
Ben, moi, ça ne me pose aucun problème que les parents soient impliqués et qu'ils remontent leur mécontentement. D'ailleurs, on progresse avec les remarques et les observations. Je le dis, je le répète, chacun dans son domaine de compétences. Je pense qu'un parent ne peut pas ou ne peut pas se permettre de s'immiscer dans la didactique, l'enseignement d'un enseignant. Parce que c'est un professionnel, seul l'inspecteur pédagogique peut le faire. Maintenant, je suis parent et j'estime que le professeur de la matière A, que je ne veux pas citer, d'une matière, ne donne pas satisfaction. À mon niveau, hein, en tant que parent, ben, je contacte, en premier lieu, avoir des explications de l'enseignant, puis après le chef d'établissement. Maintenant, il y a des protocoles. Il faut juste respecter les protocoles.
Il y a la liberté pédagogique de l'enseignant.
Exactement, et qu'il faut respecter et qu'il faut maintenir. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul élève dans la classe, il y en a 24 ou 30 élèves.
Les enseignants disent souvent quand même qu'ils se sentent de moins en moins bien considérés dans la société, notamment par des parents d'élèves qui ont mieux réussi, entre guillemets, économiquement. Hein, je repensais à ça. Au fait, mais vous êtes payé par mes impôts. D'ailleurs, au passage, même si on ne paye pas d'impôts sur le revenu, avec les taxes, la TVA, etc., tout le monde est contribuable. Hein, donc, il faudrait quand même corriger. Mais néanmoins, est-ce que vous ressentez ça aussi, cette tension sociale ?
Sincèrement, je ne la ressens pas. Je ne la ressens pas dans mon quotidien, dans mon travail, mais bon, spécifiquement, moi, je suis dans ce qu'on appelle l'éducation prioritaire renforcée. Mais que les parents exigent de nous qu'on progresse, oui, mais ça reste toujours dans un cadre bien écrit. Moi, je suis parent d'élèves, je suis papa de 5 enfants. Les 5 sont scolarisés de la maternelle jusqu'à l'université. Et je suis très, très, très content que mes enfants soient à l'école. Et je suis très, très satisfait de l'école de la République qui fait beaucoup d'efforts, qui progresse. Et chaque jour, on se pose les bonnes questions.
Mais alors, vous avez une relation privilégiée avec l'école de vos enfants tout de même, en étant vous-même chef d'établissement. Ils sont scolarisés pas dans le même établissement que vous.
Ils ne savent pas. Là où sont scolarisés mes enfants, ils ne savent pas que je suis chef d'établissement. Peut-être qu'ils savent que je suis collègue, mais ils ne le savent pas.
D'accord. Vous avez juste inscrit sur la fiche de rentrée fonctionnaire éducation nationale, c'est ça ?
Exactement.
Vous nous appelez les voisins et voisines, on parle de ces fameuses relations parents d'élèves et école. Les parents sont-ils les alliés ou les ennemis de l'école aujourd'hui ? Quelles sont vos relations avec l'école de vos enfants ? Est-ce que ça ressemble plutôt à une guerre de tranchées ou à une lune de miel ? Allez, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Abdou nous appelle, il est parent d'élèves, il est à l'université, il est à Parakou, au Bénin. Il se trouve que vous êtes professeur d'université, mais vous nous appelez d'abord en tant que parent d'élève, j'imagine, Abdou ?
Oui, j'appelle en tant que parent d'élève pendant plus d'une dizaine d'années pour les écoles de mon enfant, depuis le primaire au secondaire, dans les écoles catholiques de notre pays.
Alors, quelles ont été vos constatations ?
J'ai constaté, en tout cas quand moi j'étais allé, que les parents n'étaient pas suffisamment certainement impliqués, ou tout au moins ils avaient des associations dont les gens n'avaient pas le temps de faire vraiment leur travail en tant que parents d'élèves. Alors quand nous, on avait pris la gestion des parents d'élèves, alors moi particulièrement le président, compte tenu de mes compétences de sociologue et d'assistance sociale et autres. Moi, j'avais une manière d'approche totalement différente où j'ai cherché à comprendre un peu pourquoi certains parents réagissent violemment. Et parfois, même chez nous, certains réagissaient pour simplement même la tenue de l'école. Ils trouvaient que les catholiques ont mis la croix alors qu'il y a des musulmans qui sont aussi autorisés à y aller. Alors, il y avait certaines petites choses jusqu'à même la réclamation des notes. Mais parfois, vraiment avec véhémence.
C'est-à-dire ?
Ils viennent penser que tout le tort revient à l'école, aux enseignants qui ne font pas leur travail.
Si leur enfant a eu des mauvaises notes, sous-entendu, c'est ça ?
Oui, si les enfants ont eu de mauvaises notes.
Jusqu'où pouvaient aller les récriminations ou les pressions ?
Parfois, il y en a qui vont plus loin, plus haut. Pour les écoles catholiques, par exemple, il y en a qui vont parler directement au patron diocésain de l'école, parfois. D'autres qui venaient vers les sœurs qui savent influentes dans le système de l'Église pour pouvoir faire leurs réclamations et autres. Ils passent en tout cas par les structures de l'Église pour toucher les sœurs et frères qui ont la charge de la gestion de l'école.
Oui, des parents donc qui outrepassaient largement leur rôle de parents d'élèves. Merci beaucoup, Abdou, de nous avoir appelé. Un autre auditeur souhaiterait s'exprimer à Bamako, Mali. Bonjour, Massiré.
Bonjour, Emmanuel.
Massiré, alors vous gérez l'éducation, vous avez en charge l'éducation de vos neveux, nièces et neveux d'ailleurs. Et donc, vous êtes un parent d'élèves par délégation d'une certaine façon. Hein.
Oui, effectivement, oui. C'est ça.
Et comment ça se passe?
Et voilà, moi j'ai des bonnes relations avec l'école de mes deux nièces et de mes deux neveux, dont je suis responsable de leur éducation. Bon, je peux dire que j'ai des bonnes relations avec leur école parce que j'ai fait la suivi de leur scolarité. De temps en temps, j'ai fait venir ces professeurs s'ils ont des lacunes pour des cours de rattrapage. En quelque sorte, c'est pour dire que je joue un rôle et cela a beaucoup facilité la tâche de l'école dans l'éducation de ses enfants.
Et comment vous avez compris que vous aviez un rôle à jouer en tant que... Alors là, je dis parent au sens large du terme, hein, au sens africain du terme.
Oui, c'est ça. Et j'ai compris parce qu'au début, avant que je ne comprenne... Je passais à l'école d'abord, après avoir échangé avec ses enseignants, ils m'ont fait savoir qu'ils font tout, ils m'ont dit aussi des rôles que je dois jouer, ce qui est la suivi à la maison. Parce qu'ils ne peuvent que suivre les enfants à l'école, mais pas à la maison. Donc tout de suite, j'ai compris que je devrais m'impliquer aussi.
Ah oui, ça veut dire que ce sont les enseignants qui vous ont appris le métier de parent, finalement, un peu.
Oui, mais je le savais, mais je n'étais pas impliquée à 100%. Mais ils m'ont fait savoir que je devrais aussi jouer ces rôles-là.
Et Massiré, vous avez 26 ans. Quand vous étiez à l'école élémentaire ou au lycée, est-ce que vos parents étaient très présents dans le fonctionnement de l'établissement scolaire? Ils étaient très au courant de ce qui se passait?
Bon, ils étaient au courant, mais pas totalement, pas de la façon dont moi je suis en train de faire comme ça. C'est d'ailleurs c'est ça qui m'a poussé de le faire pour que mes neveux et mes nièces ne subissent pas les mêmes choses que j'ai fait.
Ah bon? Parce que vous avez regretté que vos parents ne s'impliquent pas plus dans votre école?
Oui, en quelque sorte, on peut dire comme ça.
Merci beaucoup, Massiré, en tout cas, pour ce témoignage. Alors, en effet, Radouane Mamdi, je ne sais pas comment vous réagissez à ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de choses très sincères. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer dans la relation?
Vous savez, un parent, il vous confie son enfant, c'est l'être le plus cher qu'il a. Donc, il attend beaucoup de vous. Il attend beaucoup de vous, donc cette attente très très importante du parent à destination de l'école doit le rassurer. L'école doit rassurer le parent. Nous travaillons pour la mise en place d'un climat de confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution, avec les médias, avec l'ouverture de l'école, avec les prises de conscience, les parents travaillent aussi pour qu'ils soient nos alliés, qu'ils soient les alliés de l'école, parce qu'ils savent que sans l'école, l'enfant ne pourra pas tout seul progresser à la maison. Mais en même temps, l'enseignant, il sait très bien que lui ne pourra pas tout seul faire progresser ou faire avancer. Donc tous les deux, le parent ou l'enseignant ont intérêt à s'entendre et à travailler ensemble correctement.
Béatrice Sabat, dites-nous quelle devrait être, enfin, comment vous travaillez-vous sur le concept de coéducation et de discipline positive pour créer de bonnes relations entre les chefs d'établissement, les enseignants et les parents d'élèves?
Oui, on s'intéresse au bon fonctionnement du lien et j'avais une remarque sur les changements. Je crois qu'il faut sortir de... c'est la faute à qui? C'est la responsabilité de qui? Et ça, en fait, ça permettra d'avoir des relations plus apaisées parce que à ce moment-là, on les recentre sur on a une situation, on a un incident, on a une problématique. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qui va nous aider à la solutionner? Et quelle va être la contribution du parent? Quelle va être la contribution de l'enseignant? Peut-être de l'établissement de façon plus générale? Et bien sûr, de l'élève.
Mais concrètement, qu'est-ce que vous aidez à changer dans le fonctionnement de l'école? Je dis l'école avec un grand E, ça peut être le collège, le lycée. Qui contribue à améliorer la relation. Parfois, les enseignants font des faux pas sans le vouloir, parce qu'ils sont centrés sur leur discipline, par exemple, sur leur manière d'enseigner. Donnez-nous des exemples.
Alors, on fait tous des faux pas. Et ce qu'on fait en discipline positive, c'est qu'on va utiliser l'incident comme une opportunité d'apprentissage. Donc ça aussi, c'est un changement de regard.
Par exemple.
Donc, si l'enfant a triché, récemment, je travaillais avec une équipe d'enseignants et l'enseignant, une des participantes, dit je suis outrée parce qu'en fait, j'ai un parent qui m'a téléphoné pour m'expliquer que son enfant n'avait pas triché. Donc, on rentre sur des terrains qui sont... Et en fait, on va, à partir d'exemples comme ça, travailler avec les équipes pour voir comment est-ce qu'on peut faire de la triche une opportunité de faire différemment et d'enseigner les compétences sociales, émotionnelles, civiques dont les enfants ont besoin. Donc, on va travailler en action de formation avec les enseignants, à partir de situations réelles, avec les parents en atelier.
Donc, sur la triche, on dit quoi, du coup? Comment on change de discours? C'est pas bien de tricher?
Oui, c'est pas bien de tricher. Alors, d'une part, ce qui se passe dans la classe, pour moi, ça devrait se résoudre dans la classe. Hein. Souvent, la double punition, quand le jeune rentre à la maison avec le mot sur le carnet et qu'il en prend une deuxième, je trouve que c'est pas forcément aidant, parce que, encore une fois, on apprend mieux quand on se sent mieux. Et ensuite, ça va être d'utiliser des questions restauratives pour explorer l'incident.
C'est quoi des questions restauratives?
Alors, les questions restauratives, c'est tout simple, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Qu'est-ce que tu penses maintenant du fait d'avoir triché? Et qu'est-ce que tu vas faire pour que ça se passe différemment?
Et ça ne se reproduit plus. Moi, si vous permettez, moi j'ai un exemple concret. Vous faites les conseils de classe fin novembre, puis après la remise des bulletins au mois de décembre. Le parent arrive, il découvre au mois de décembre résultat catastrophique de son enfant. Il vous fait des reproches et donc... En termes de pilotage d'établissement, nous, par exemple, maintenant, on fait ce qu'on appelle le bulletin, le relevé de notes mi-trimestriel, nous permet d'informer les parents à l'avance de la situation de leur enfant. Et nous avons progressé encore plus. Dès la rentrée, on reçoit les parents pour expliquer le projet de la classe. Ça, c'est mettre en place des protocoles et un climat de confiance. Et je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites restaurer cette confiance, restaurer l'enfant. C'est de partir de ce qui est positif. Ouais. Il a triché, oui, il a triché. Pourquoi? Comment il se fait? Il est arrivé à tricher. Et en même temps, de voir quels sont les points positifs et pourquoi cet enfant a triché. Ouais. Parce qu'il n'a pas compris la leçon, parce qu'il n'a pas compris ce qu'on attend de lui. Et bien, il y a un travail pédagogique à faire.
Se décentrer de la sanction, donc, ça veut dire aux parents, n'en rajoutez pas sur la sanction, il a déjà été sanctionné. Ou au contraire, ne le défendez pas parce que c'est notre métier, c'est nous qui avons raison aussi.
Exactement, exactement.
Et puis, c'est quand le parent défend son enfant, il fait pour lui. Donc, ça n'est pas le mettre en capacité.
On a un auditeur qui nous appelle, est-ce qu'on lui donne la parole? Oui, vous êtes d'accord. Alors Konaté nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Konaté.
Ah bonjour madame. Donc, bonjour.
Vous êtes proviseur de lycée, hein, je précise, donc voilà, chef d'établissement. Voilà. On vous écoute.
Voilà, donc de prime abord, je vais rappeler que le choix de l'école a été un choix stratégique par les autorités publiques. Lors de la récente marche, le président a martelé l'école. Pour sortir de la pauvreté et de l'ignorance. Alors, je passe à l'anecdote. Une dame a entendu son enfant dire, une dame wolof, je précise, réciter la leçon sur les quatre points cardinaux. S'orienter, l'est, l'ouest, le nord, le sud. Alors, elle l'a arrêté et dit, mais il a dit à mon fils en wolof, quand est-ce que nous disons qu'il dit s'orienter, bakani.
Oui.
Puisque s'orienter en wolof veut dire s'éloigner l'un de l'autre. Elle dit, mais mon fils, ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Quand est-ce qu'ils vont se rapprocher? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines mamans qui veulent bien suivre leurs enfants, mais elles ont un problème de compétence.
Mais bien sûr.
La volonté à elles seules ne suffit pas. D'autres prennent un stylo pour marquer une page. Et quand l'enfant revient, elle compte le nombre de pages. Et un petit signe discret. Mais tu n'as pas écrit de leçon depuis tel ou tel jour.
Oui.
C'est pour dire que les parents d'élèves parfois veulent suivre, mais il y a un problème de compétences. Ils doivent être formés à ce que j'appellerais le métier de parent d'élève.
Vous faites allusion à ces mamans qui ne savent ni lire ni écrire. On a vu néanmoins des enfants réussir extraordinairement bien avec des parents qui ne savaient ni lire ni écrire et qui avaient le talent de les interroger sur ce qu'ils avaient appris. Voilà, mais bon, vous mettez le doigt sur une vraie difficulté. Vous avez raison, Konaté. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Peut-être vous souhaitez apporter un commentaire, Monsieur Mamdi.
Nous, on a travaillé aussi sur la transformation de parents d'enfants à parents d'élèves, et qui est un sujet très important. Comment passer d'un parent d'enfant à un parent d'élève? Comment accompagner son enfant dans sa scolarité?
On prend un dernier auditeur. Oui. Chris nous appelle de l'île Maurice. Bonjour Chris.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute. Vous êtes un papa solo, père de famille donc?
Oui, et papa heureux, parce que je suis votre émission, comme vous savez. Et moi, j'ai su, vous savez, coopérer avec les profs de mes trois enfants, ce qui m'a aidé, parce que en les écoutant, parce que vous savez, nos enfants sont pris entre les profs et les parents. Donc nous devons savoir justement gérer cela. Et à partir de là, moi, j'ai pu encadrer mes enfants selon les conseils de mes profs, de leurs profs, pardon. Et j'ai pu les aider parce que le prof corrige les lacunes, moi je suis derrière, et c'est parfait. Ça a été le cas pour les trois enfants, qui aujourd'hui, l'aîné est déjà marié, détient sa licence, et les deux autres terminent leur master de bientôt. Donc moi, pourquoi je voulais intervenir, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne comprennent pas les profs, et malheureusement qui leur tombe dessus, et ça crée des... Parce que vous savez, il y a des situations bien violentes aujourd'hui dans les écoles, parce qu'il y a incompréhension des parents vis-à-vis des profs.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Chris, de l'île Maurice. Et c'est vrai qu'un enfant qui est pris en tenaille entre l'école et les parents qui sont en désaccord, eh ben c'est pas bon pour qu'un enfant grandisse sereinement. Je voudrais quand même avoir votre point de vue avant qu'on termine ce débat sur ce sujet-là. En tant que principal de collège, Radouane Mamdi, mais le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, souhaiterait priver les parents dont les enfants sont violents d'allocations familiales. Ça a déclenché un tollé, y compris chez les députés de la majorité. Le fond du débat, c'est est-ce qu'il faut des mesures concrètes pour responsabiliser les familles qui ont des enfants violents dans les établissements? Est-ce que ça peut être d'ailleurs la bonne manière ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, le ministre a mis sur la table la question des allocations familiales, mais ça n'a pas encore été décidé. C'est une commission qui va le décider. Aujourd'hui, la responsabilisation des parents, c'est quelque chose de très important, parce que l'école doit défendre le plus faible. Et donc, s'il y a des enfants qui sont violents, il faut penser à ces enfants violents, mais en même temps, il faut penser aux autres aussi, ceux qui subissent. Il y a plusieurs solutions. Je pense que la solution de toucher aux allocations familiales n'est pas la bonne solution, et je pense et j'espère qu'elle ne sera pas retenue, dans la mesure où l'allocation familiale, elle est donnée pour aider une famille. Et en même temps, il y a un autre point aussi.
Vu le contexte politique actuel, il y a peu de chances quand même que ce genre de proposition aboutisse. Il y a eu la loi Ciotti sous Sarkozy qui a été abrogée sous le président Hollande pour combattre l'absentéisme scolaire. Il y a eu 600 suppressions de versements d'allocations familiales, mais sur près de 80 000 signalements d'absentéisme. Ça n'a pas été appliqué parce qu'en fait, personne n'y croyait, l'efficacité de la mesure.
Non, on n'y croit pas du tout, et j'espère qu'elle ne sera pas retenue. Et je pense, comme vous, qu'elle ne sera pas retenue. Mais de responsabiliser et de protéger les plus faibles, c'est quelque chose de très important pour nous.
Bien sûr.
Béatrice Sabaté, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes.
Je voulais juste ajouter que les enjeux, ils sont éducatifs. Donc on peut supprimer des choses, être plutôt dans le répressif ou le punitif, mais on a besoin d'apprendre ensemble en fait. D'où l'intérêt de se former ensemble.
Eh bien, ça sera, je pense, une bonne conclusion. Je pense, mais en tout cas, merci à tous les auditeurs qui ont apporté leur contribution, leur témoignage. Merci à vous aussi pour vos analyses. Radouane Mamdi, principal de collège en Seine-Saint-Denis. Et merci à vous, Béatrice Sabaté, psychologue, spécialiste de discipline positive. Merci. Et on a bien compris comment on pouvait renverser la vapeur et l'ambiance aussi entre l'école et les parents d'élèves. Quelques instants, on donne la parole à la Commission européenne pour parler des bourses d'études à destination de l'Afrique.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins.
on est toujours à l'écoute.
Nous sommes en ligne avec Derdre Lehnan, chargée de l'Afrique au sein de la Direction générale pour l'éducation et la culture à la Commission européenne. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Les budgets de l'Europe sont en hausse pour la mobilité des étudiants avec le programme Erasmus+, et ça touche aussi maintenant les étudiants africains.
Tout à fait. C'est dans le cadre, le président Juncker en fait, a annoncé en septembre sa nouvelle alliance, pour ainsi dire, avec, pour un investissement et des emplois durables entre l'Afrique et l'Europe. Et ça complète le partenariat de longue date. Mais surtout pour nous, ça réitère l'engagement qui a été pris au sommet Afrique-Europe d'augmenter le nombre de bourses d'échange de courte durée Erasmus, parce que les chefs d'État des deux côtés sont tout à fait entièrement d'accord de la priorité d'investir dans l'éducation, les compétences de la jeunesse africaine. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, les budgets ont été augmentés parce qu'il y a un engagement d'atteindre 35 000 mobilités d'étudiants et personnel africain d'ici 2020.
En effet. Oui. Depuis 2015, on a eu 16 000 étudiants et universitaires africains qui ont bénéficié de bourses pour venir en Europe. Et effectivement, il faudrait que ça atteigne 35 000 d'ici 2020. Alors, qui est concerné géographiquement déjà, les pays les étudiants, les enseignants-chercheurs?
Tout à fait. Donc, c'est réparti sur l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest et la Corne d'Afrique. On parle de personnel universitaire, les académiques, mais aussi le personnel administratif et les étudiants de licence, de master et les doctorants. Donc, quasi tout le monde, en fait, ouais. Africaine.
Comment ça se passe? Ça veut dire que les étudiants, alors qu'ils soient d'ailleurs en licence ou en doctorat, hein, vous le disiez, mais doivent passer par leur université. Ça se passe par des coopérations entre leur université, leur pays et une agence Erasmus d'un des pays européens qui accueille des étudiants Erasmus africains?
Exactement, c'est comme ça. En fait, les universités africaines ont déjà beaucoup de partenariats à travers l'Europe, mais souvent, il n'y a pas de moyens pour les mettre, en œuvre. Donc, quelque part, moi, j'ai un appel pour les universitaires, pour les académiques en Afrique, c'est vraiment de stimuler leur université à concrétiser leur partenariat en faisant un accord Erasmus. Et les étudiants, eux, doivent aller dans leur bureau de relations internationales, donc dans leur université en Afrique, voir s'il y a des accords déjà existants voir quelles sont les modalités pour s'inscrire, pour être sélectionné pour une mobilité à travers l'Europe.
Donc, une mobilité qui peut aller de un semestre à deux semestres, enfin l'équivalent d'une année universitaire.
Tout à fait.
Pour les étudiants africains qui souhaiteraient venir étudier pour une année universitaire en France, sachant qu'il y a une augmentation énorme des frais d'inscription pour les étudiants subsahariens non européens, là pour la rentrée prochaine, quand on est étudiant africain Erasmus, on ne paye pas de frais d'inscription si on va dans une université française pour un an dans un échange.
Je confirme, on ne paye rien. Donc la bourse va couvrir le voyage, les frais d'inscription, enfin les frais de vie, disons, et pas de frais d'inscription.
D'accord, pas de frais d'inscription et de l'aide individuelle. Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous. Il faut évidemment que les étudiants se renseignent au sein de leur propre université. Et sur Internet, on va mettre le lien sur la page de 7 milliards de voisins. Merci Derdre Lehnan d'avoir été en ligne avec nous, chargée de l'Afrique au sein de la Direction générale de l'éducation et la culture à la Commission européenne. Vous étiez en direct de Bruxelles. Merci à vous et très bonne journée. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. La chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
On vous retrouve chez 7 milliards, bien sûr, le vendredi. Et puis en podcast sur le site RFI.fr, on peut écouter toutes vos chroniques en rafale. Vous dirigez la revue transculturelle L'Autre. Et donc, vous nous proposez des conseils, des analyses pour mieux comprendre, mieux s'occuper des enfants dans cette série de chroniques où il est surtout question des bébés. Et là, vous répondez à la question qui est très débattue en Europe. Comment nourrit-on les bébés ?
Il y a un fait, hein, c'est que le lait maternel, c'est vraiment extrêmement important et pour les bébés, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et c'est une recommandation claire de l'OMS, par exemple, là-dessus. Mais ceci étant un fait démontré, reste que chaque maman doit se déterminer sur est-ce que je dois donner le sein ou le biberon entièrement ou les deux, et jusque quand, jusqu'à quel âge aussi. Hein. Cette question est posée à toutes les mères avec parfois des prescriptions très fortes faites aux mères par la famille, l'entourage ou même la société, avec des théories scientifiques qui, on l'a dit, ont démontré l'importance du lait maternel, mais aussi avec des modes et des préjugés qui existent très nombreux dans ce champ.
Des préjugés sociaux et une grosse pression sociale aussi sur les mères qui parfois ne sont pas forcément libres de choisir. Alors, allaiter les bébés, c'est pas une bonne chose ?
Ah si, si, c'est une très bonne chose d'allaiter les bébés. C'est très bon pour les bébés. C'est même aussi très bon pour les mères quand elles en ont envie, quand elles se sentent capables et quand la situation le permet. Mais si on culpabilise les mères qui ne souhaitent pas, par exemple, allaiter, alors à ce moment-là, c'est totalement contre-productif, ou qui ne peuvent pas allaiter, c'est totalement contre-productif et cela ne fera pas du bien au bébé ni à la relation avec ce bébé. Car en même temps que le lait, ce si bon lait maternel, on transmet des émotions et des mots, et donc c'est un acte complet finalement, l'allaitement. Et alors ça, les préjugés, ils sont dans les deux sens, parce que je pense aussi par exemple à une jeune maman que j'avais rencontrée à Sous, qui était une jeune mère qui venait d'accoucher en France de son premier enfant, et elle a décidé de lui donner le biberon seulement. Alors ce qui était un peu étonnant, c'était une maman qui venait d'une Niger, et on lui demande mais pourquoi elle a décidé de donner que le biberon à son bébé, et elle dit, Assou dit très clairement que pour elle, le biberon c'est un peu le symbole de la France, et que c'est grâce au biberon que les bébés français meurent moins que les bébés du Niger, donc dans, là où elle est née et où sont morts plusieurs de ses jeunes frères en très bas âge. Comme je discute avec elle de cette question, elle est un peu étonnée, elle se dit mais pourquoi vous me posez ces questions, c'est pas comme ça qu'on fait en France. Ah ben, je lui réponds qu'en France on a changé d'avis, on pense que le lait maternel c'est bien aussi et que ça fait du bien aux enfants. Elle me regarde perplexe et elle me dit mais je croyais que la science française c'était la vérité quoi, comment peut-on changer de vérité? Ben, en fait c'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr, c'est le lait maternel quand c'est possible et parce que c'est souhaitable, mais c'est pas non plus une obligation.
C'est une question qu'on vous pose souvent, en fait. Quel est votre point de vue personnel?
Totalement, et mon point de vue personnel et le point de vue de comment on fait en France également. Hein. C'est vraiment une question très importante. Mais moi, quand on me demande quel est mon point de vue personnel, je dis le sein si c'est possible.
Merci Marie-Rose Moreau. À retrouver bien sûr les chroniques parents, enfants d'ici et d'ailleurs sur le site rfi.fr à la rubrique émissions en podcast. Évidemment, on peut vous écouter le vendredi chez 7 milliards. Prochain épisode de cette série sur les bébés. Comment on se sépare de nos bébés pour la journée ou pour plus longtemps? Merci à vous tous, merci à l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz, qui évidemment tous les jours prépare cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine et nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins, on parlera du permis de conduire. Comment faciliter son accès tout en garantissant la sécurité routière. Et il faut dire en plus que le débat sera au combien d'actualité en France alors qu'on songe à rétro-pédaler sur les 80 km/h comme limite de vitesse. Ça va être compliqué pour les enseignants pour le permis de conduire. On ne sait plus à quelles règles se fier. Voilà, en tout cas, vous pourrez nous téléphoner comme chaque jour au 33 1 84 22 71 71. Vous le savez, les voisins, les voisines, c'est vous qui faites cette émission chaque jour de la semaine. Merci à vous tous de votre fidélité. À lundi, très bonne fin de semaine sur RFI, bien sûr.